notre invité du jeudi aujourd'hui, on va parler avec Loïc Perrin. Alors, on ne parlera pas de football, hein. C'est vrai que c'est un homonyme plus ou moins, puisque Loïc qu'on reçoit, lui, ça s'écrit avec un K, alors que Loïc, l'ancien footballeur, était avec un C. Mais vous allez voir qu'il va nous parler de choses un petit peu étranges quand même, on peut le dire. Donc Loïc est un peu le régional de l'étape, on peut le dire, hein, puisqu'il vit du côté de Roche-en-Régnier au Bois. Et on va avec lui découvrir ces deux romans. Il en écrit d'autres, je pense qu'il nous en parlera. Mais les deux derniers, c'est Voyage en Horasphère. Donc il y a un tome 1 et un tome 2, on le retrouve dans quelques instants. Voilà, donc, comme je vous disais, on reçoit aujourd'hui Loïc Perrin, qui a écrit plusieurs romans. Loïc, bonjour.
Bonjour.
Alors Loïc, on va parler des deux derniers surtout, puisque moi je vous ai découvert parce que vous nous avez envoyé un petit mail, donc c'est toujours sympa. En plus, vous êtes un voisin, hein, je dirais. Alors, on parlera donc de l'Horasphère, Voyage en Horasphère, livre 1, et il y a un tome 1, un tome 2. Mais vous en avez écrit, vous écrivez depuis 2016. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire comme ça?
Ça, c'est vaste à la base. Moi, je suis très éduqué par la chanson en texte, notamment la chanson française. Et depuis tout petit, donc bercé par les mots et l'importance des phrases. Et du coup, je me suis essayé, alors très jeune et puis sur l'adolescence, à écrire des chansonnettes, choses comme ça, qui étaient pas très belle, faut dire ce qui est, mais j'ai gardé la fibre de la poésie et des poèmes, puisque ça a été mes premières façons d'écrire, notamment des recueils depuis 2011. Et puis un jour, j'ai voulu essayer de faire quelque chose de plus dense, de plus compact et qui parle au plus grand nombre. Et donc j'ai tenté d'écrire des histoires, et puis de fil en aiguille, ça a fini par faire un vrai roman, donc plusieurs. Puis enfin, j'ai pu en 2016 publier le premier, donc qui s'appelle Un regard. Et puis depuis, chaque année, ou un ou deux par an, selon les années, j'arrive à en sortir et à en publier. Jusqu'au huitième aujourd'hui.
Oui, je vois, puisque donc pour refaire un peu la rétrospective, 2016, un regard, alors le thème, vite fait, c'était...
C'était une personne qui se sentait coupable, et c'était pour traiter l'impact de la culpabilité sur l'être humain, et de manière romancée, sur une histoire très à suspense, un peu sombre, sur toute une intrigue autour de ce personnage-là.
D'accord. Après, donc, vous en avez sorti deux en 2018, Tout là-haut et Flake.
Flake, c'est ça, Flake. Ouais. Alors, Tout là-haut, c'est plus une nouvelle en réalité qu'un roman. C'était une histoire, une intrigue un petit peu à suspense d'un auto-entrepreneur qui veut rénover, enfin qui est missionné dans un chantier pour rénover la Tour Eiffel, et qui va se retrouver bloqué. Et que du coup, il va passer 24 heures bloqué en la Tour Eiffel pendant le défilé du 14 juillet. Donc ça, c'est l'intrigue de Tout là-haut. Flake, c'est plus du fantastique fantaisiste. C'est une histoire, en fait, qui traite de l'impact de l'immortalité sur l'être humain, si ça devait exister, et comment ça se répercuterait dans notre monde autour d'une rétrospective sur l'histoire de la planète et de l'humanité.
Et alors, on a Au fond du lac.
Alors, Au fond du lac, c'est presque un livre hommage, pour le coup, à Alain Leprest. En fait, c'est un personnage qui va être atteint d'une maladie lourde et qui va devoir quitter toute sa famille et ses amis pour se faire hospitaliser. Et il va retrouver une amie en Suède, par le fruit du hasard, qui va au départ lui en vouloir de l'avoir abandonné. Puis quand il va lui expliquer pourquoi, ils vont se relier d'amitié. Et son dernier rêve, son ultime rêve, c'est de faire une plongée sous-marine, notamment dans le lac Stora del Jon en Suède, donc à Göteborg. Et puis donc l'intrigue va passer autour de cette histoire qui sera un peu mystérieuse aussi.
Très bien. Alors après, on a les loups de Moscou. Les Loups de Moscou.
Yeah. Alors, les Loups de Moscou, c'est une histoire un peu plus sociale pour le coup. C'était suite à la Coupe du Monde de football en 2018. Alors, je ne traite pas le football en lui-même. C'était plus pour créer justement cette différence entre. Parce que malheureusement, on a revécu en Seine là récemment. C'est la différence entre une population très pauvre et une liesse populaire très festive, souvent assez à l'aise financièrement. Et je m'étais mis à la place d'un pauvre, un adolescent de banlieue moscovite très pauvre, dont la déchéance est complète, avec une famille qui lutte, avec un petit frère qui est décédé par manque de finances, et qui voit arriver ses fêtes dans ses rues et cette insouciance, et comment ça peut engendrer une colère et une haine, non pas pour excuser certains actes, mais pour aussi faire prendre conscience que c'est pas forcément toujours la faute d'un clan ou d'un autre. Et donc c'est un roman autour de ce personnage-là qui s'appelle Sergueï et qui va finalement se faire aider par une personne qui vient à la base pour la Coupe du Monde, qui est une journaliste, et les deux univers vont se rencontrer, et au lieu de se mettre en conflit, ils vont plutôt s'entraider pour permettre à ce jeune d'éviter de peut-être.
Oui. D'accord. Et enfin, Les Oiseaux du Labyrinthe.
Alors, celui-ci, c'est plus un roman psychologique. C'est une reporter, alors dans l'histoire, elle est chez BFM, qui son patron va lui demander d'aller enquêter en Amazonie parce qu'il y a un reporter qui est parti là-bas et qui est porté disparu, qui donc était parti là-bas pour étudier l'impact sur la faune et la flore suite aux incendies. Et en réalité, elle va partir pour couvrir ce reportage et au final, elle va rencontrer toutes les origines de ses troubles psychologiques. Et des liens de famille au milieu de tout ça, et ça va tout faire tout un suivi psychologique au fur et à mesure de l'aventure en elle-même en parallèle.
D'accord, voilà, donc ça c'est. On va en arriver bien à ces deux livres, mais avant, donc on discutait un petit peu avant de commencer cette émission. Vous êtes responsable, vous, d'un club sportif de tir à l'arc.
Ouais, c'est ça.
Alors c'est sur Monistrol, ouais. Bon, c'est vrai que le tir à l'arc, c'est un sport un peu, je dirais, confidentiel, hein. Même s'il y a quand même pas mal de gens qui font du tir à l'arc, des fois pour s'amuser, mais quand on va en compétition, c'est un peu plus compliqué quand même, hein. Parce qu'il y a des arcs maintenant qui sont des vraies machines de guerre, hein.
C'est une mécanique. Moi, je fais souvent le parallèle avec le sport auto.
Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Bon, ben, c'est bien. Et alors, c'est complètement un autre univers, hein, les livres et les tirs à l'arc. Alors, Laura Sfer, alors, il y a deux tomes, comme on disait en commençant. Il y a le livre 1 qui est sorti. Et alors, en quatrième de page, hein, ça, en général, ça présente un petit peu le bouquin, dont vous dites que Jean décide de s'échapper du foyer où il réside depuis plusieurs années. Il n'a qu'une seule idée, c'est partir et découvrir le monde. Entre les quatre murs de sa chambre qui sont censés le protéger, Jean sature à bout de nerfs comme un cri de survie. Il fugue, destination Saint-Malo, avec au cœur l'espoir de prendre le large. Lui qui est considéré depuis sa putain d'enfance comme un assisté, un point mort, un boulet de la société, par cette fuite sans retour possible, s'apprête à explorer des terres dont il ignore tout. Au-delà de la réalité des frontières terrestres, un autre monde l'attend, un monde où enfin il a un rôle à jouer. Donc là, à partir de là, de Jean, vous allez l'emmener dans un autre monde, parce que c'est vrai qu'il est en foyer, donc c'est pas tellement jovial, hein, le foyer, il faut le dire. Hein.
Pas vraiment. En tout
Et
cas,
donc lui sent inutile, quoi, on peut dire ça. Hein. Et puis on lui fait pas trop confiance, je pense. Donc, et vous allez l'emmener dans un monde où on va lui donner des responsabilités.
C'est ça. Bah, l'idée, c'était de faire d'un anti-héros par excellence, justement, une forme de héros. Et c'était vraiment totalement l'idée. Alors, je voulais juste quand même préciser que le livre 1 et le livre 2 sont des histoires indépendantes, même si le traceur est le même, il n'y a pas d'obligation de lire l'un avant l'autre. Hein, c'était juste une petite précision. Donc oui, pour le livre 1, c'est ça. L'idée, c'était d'un personnage qui est totalement le profil même du anti-héros, qui est souvent mis en marge, qui est éloigné du système parce que on peut pas lui donner soi-disant de responsabilité, il peut pas se gérer, il faut qu'il ait un tuteur, il faut qu'il soit... Enfin bref. Et du coup, je me dis... Cette personne-là, qui du coup, comme tout être humain, a des besoins, des envies, souffre du coup de cet isolement et rêve de s'évader, oui, de s'en aller. Et c'était une façon de lui permettre d'avoir une véritable vie à lui seul et de pouvoir s'exprimer à part entière. Donc c'était ça, et pour sublimer, pour lui donner cette responsabilité-là, puisque c'était pas possible dans le monde réel, j'ai voulu mettre en place un univers un peu fantastique qui lui permettait justement d'embrasser ces responsabilités-là et du coup d'avoir ce véritable rôle, tout en laissant, et c'est là tout l'intérêt de l'histoire, le choix au lecteur de choisir s'il sera un héros ou non.
Alors, là, c'est peut-être dû commencer par là. Pourquoi appeler cela Aura Sphère ?
Alors, Horasphère, c'est d'abord pour l'aspect sphérique, justement, parce que du coup, je me suis inspiré, et c'est sans aucun. Comment dire? Je le cache pas du tout, autour de l'Atlantide. C'était l'idée initiale, en fait, de faire un monde qui s'y ressemble avec son côté un peu mystérieux. Ça a disparu, est-ce que ça existait, ça n'a pas existé, avec tout cet aspect mystique qu'il y a autour, même si la science aujourd'hui nous prouve quand même plutôt le contraire. Du coup, c'était voilà, ce côté sphérique avec différents anneaux, différents peuples, avec un rapport très proche à la nature, ce qu'on verra sur le livre 2. Et aura, c'est simplement parce que c'était le côté, je voulais jouer sur le jeu de mots, l'aura d'une personne et le peuple aura, du coup, parce que ce sont des petites créatures toutes petites, pas plus grandes qu'un grain de riz. Et c'était pour jouer voilà, sur le jeu de mots, l'aura d'une personne et la sphère de l'univers.
Oui, alors en plus, bon, peut-être sans le faire exprès, Aura, on sait que c'est Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, alors c'était complètement pas voulu.
Oui, mais j'ai compris.
Et pour être honnête, la première fois qu'on me l'a dit, j'ai fait ah oui, effectivement.
Et
Mais
ouais,
c'était
c'est
pas.
marrant comme
Oui.
quoi. Voilà donc votre, on va dire, allez, on va l'appeler le héros quand même du livre.
Bien sûr.
Eh bien, on va voir qu'il va complètement changer, quoi. Ça va, il va devenir quelqu'un. Hein, c'est
Exactement.
ça un peu,
C'est
donc.
ça. Et il va même arriver finalement à devoir faire des choses qu'il s'imaginait pas forcément capable. On va également un peu, il y a des passages où c'est à la première personne, c'est son discours interne où il parle, ben, il se parle, il parle un petit peu mentalement à sa mère, à sa famille. Et on va voir aussi sur ses cas de conscience par moments, ses doutes, parce que c'est une personne qui, d'une manière externe, s'exprime très peu dans les dialogues. Il a du mal avec malheureusement beaucoup de personnes dans ce genre de situation. Va avoir tendance à peu parler, à avoir tendance à plus faire des ok, d'accord. Qu'il aura du mal à être loquace, à exprimer des phrases et son ressenti. Et à l'inverse, il y aura tout ce discours interne qui va venir un peu étoffer son
Et alors,
ressenti.
disons que, alors là où on vous parlait un petit peu de ses parents, il est toujours en contact avec ses parents ou il est complètement isolé?
Uniquement avec sa mère.
Uniquement avec sa mère,
Voilà.
d'accord.
Il aura une certaine rancœur aussi avec son père.
D'accord. Il a été placé en foyer, on sait pourquoi.
Oui, pour déficience.
D'accord. On lui
Déficience
trouve une déficience, mais
mentale
est-ce
qui.
qu'il l'a vraiment? On va le découvrir dans le livre ou est-ce que
Bah,
finalement.
il a un retard. En tous
Il
les
a
cas, il a
retard,
un
oui.
retard, oui, qui est clair, qui est réel pour le coup. Il n'est pas enfermé contre son gré pour le coup. C'est
Oui.
vraiment, c'est réel. Mais disons qu'il a ce retard qui fait qu'il est diagnostiqué pour devoir être placé, mais sans être non plus au point de pas être conscient de la réalité du monde.
D'accord.
Ce qui fait qu'il est quand même impacté par la réalité du monde, et c'est ce qui fait justement tout son ressenti et son besoin.
Alors donc, c'est sorti de votre imagination, tout ça?
En grande partie, alors bon, tout à l'heure on parlait de mon activité, donc je travaille aussi avec des personnes en foyer d'hébergement justement, donc c'est aussi en
D'accord.
contact avec
En
certaines de ces
liaison, ouais.
personnes et des discours que j'ai pu avoir avec, enfin des discours, voilà, des petites discussions que j'ai pu avoir avec certains qui m'ont fait tilter ça. Alors après j'ai pris beaucoup de choses dans la balance, hein, c'est pas forcément une direction précise.
Oui.
Dans chacune de mes histoires, il y a toujours plusieurs éléments qui viennent se greffer. Donc il y avait ça, il y a eu forcément les 8 semaines de confinement, il y a eu voilà, il y a beaucoup de choses. Et en même temps, pendant les 8 semaines de confinement, parce que j'aime bien faire beaucoup de choses, je me suis pris de plaisir à lire un petit peu tout ce qui était Lovecraft, parce qu'on parlait beaucoup. Ce côté très placé où l'être humain est très minimaliste à l'échelle de l'univers. Et en plus de ça, j'étais vachement axé sur tout ce qui était astrophysique à ce moment-là. Et du coup, bah, j'ai associé un petit peu les deux, parce que les deux allaient relativement bien ensemble. Donc c'est un ensemble un peu de tout ça.
D'accord, donc c'est ce qui va être transcrit dans ce livre un peu.
C'est ça.
Hein, donc on va parler de ce monde imaginaire, quoi, mais qui va rendre service à Jean, quoi, en fait.
Exactement.
Hein, de l'emmener là-dedans, lui, il va retrouver une personnalité un peu.
C'est ça, exactement. Et on
Hein?
pourra s'exprimer en tant que personne, en tant qu'individu.
Voilà. Alors donc, on parle de l'aura sphère avec Loïc Perrin. C'est le tome 1. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous faites un peu une satire de la société en même temps ou pas?
Alors c'est difficile parce que disons que j'ai aucun souci à fait de dire que quand j'ai un sujet qui me tient à cœur, je le traite, je cherche pas forcément à lisser le message. Donc tous mes romans, on parlait des Loups de Moscou qui est très social, où justement j'ai tendance un petit peu à fustiger le comportement inconscient d'une certaine part de la population vis-à-vis des gens plus défavorisés. Dans Les Oiseaux du Labyrinthe, c'est pareil, je fais toute une partie développée autour de l'impact des grandes entreprises sur les forêts amazoniennes, entre autres. Et donc, dans celui-ci, oui, il y a forcément une part où je mets mon point de vue, autour de la manière dont on peut traiter ces gens-là, tout en étant dans une certaine limite, parce que avoir une critique et avoir une vision, c'est une chose. Après, il faut quand même en connaître tous ses tenants et ses aboutissants pour être objectif. Donc l'idée, c'est voilà, j'exprime un point de vue qui est le mien, sur lequel, ben oui, j'ai aucun souci à l'affirmer et à le mettre dedans.
Ok, donc là, c'est, on va voir que il y a un deuxième, comment dirais-je, un deuxième roman, puisque à la suite du premier, c'est un peu des amis à vous qui ont dit, ben pourquoi tu continues pas en fait, hein.
C'est exactement ça. En fait, dans l'idée, à la base, je n'avais jamais écrit d'histoire 100% fantastique. Je me sers toujours soit du surnaturel, soit du psychologique, soit un peu de fantasy pour souligner, surligner certains passages réalistes, pour les mettre en valeur. Là, en l'occurrence, c'est ma première fois où je tentais le coup, parce qu'on m'a dit, ben ouais, mais t'as commencé à mettre en place un monde fantastique qui peut être sympa, essaie de voir si tu peux creuser et en faire quelque chose de plus complet. Alors, partie de cette idée-là, je me suis dit, ben, une suite dans une certaine temporalité, c'était compliqué, parce que l'histoire était terminée dans le livre 1. Donc, du coup, j'ai voulu revenir aux origines, justement, de la création de cet univers-là, donc d'où le titre, hein, aux origines de l'aura sphère, où je parle de cette création de ce monde-là, tout ce qui le comporte, donc, on disait tout à l'heure, la notion des planètes, de l'impact sur ce monde. Donc l'influence de la lune, du soleil, etc., comme on peut le connaître dans la réalité avec l'effet des marées et autres. Et j'ai voulu personnifier ces astres-là, les auras qui défendent leur terre et tout ce rapport à la nature, c'est-à-dire que chaque zone a un rapport à un environnement bien spécifique. Donc il y a une zone très forestière, très nature, il y a une zone plus de montagnes, de neige, l'autre plus de terre, presque désertique, et tout ça est très, c'est un équilibre qui est très très fin, qui est très sensible, et du coup chaque peuple a son impact, et lié à ça, il fallait quand même créer un suspense et une histoire. Donc je me suis appuyé sur justement une personnification de la lune vis-à-vis du soleil, en disant en gros, la lune, elle en veut aux rats de davantage vénérer le soleil comme pouvaient le faire les Mayas en leur époque. Et de leur dire, vous vénérez le soleil, vous m'avez bafoué, presque vous moquez de moi. J'incarne le froid, la nuit, etc. Alors que le soleil, il incarne tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Et du coup, elle va vouloir se venger. Et pour ça, elle va vouloir exterminer le peuple rat. Et par le biais d'un monde totalement fantastique, de créatures, etc., les auras vont se défendre et vont protéger leur planète vis-à-vis d'une menace qui est plus lointaine et mystique.
Alors, on fait une petite pause, on va continuer d'en parler, hein, de ce tome 2. Alors, comme on a parlé d'Atlantide, j'ai trouvé un titre de l'Enaka qui s'appelle « Aussi loin de tes rêves ». Donc, ça illustrera un petit peu ces deux livres, hein, donc, dont on est en train de parler. Donc, aux origines de l'aura sphère, avec Loïc Perrin, qui nous parle aujourd'hui de ces deux romans.
Te fera peur, mais on ne comprendra jamais qui tu es. Mais toi, tu y crois, et tu vois. Quelque chose en toi qui ne renonce pas. C'est l'envie d'y croire encore qui rend plus fort. Et toi, tu y crois.
Voilà, Lenaka, aussi loin que tes rêves. Alors, on retrouve Loïc Perrin pour parler de ce deuxième tome. Alors, en fait, dans le premier, c'était un jeune homme. Et dans le deuxième, c'est Oménie, c'est une jeune fille, donc qui va basculer dans ce monde, on dit, on a compris, surprenant des auras. Elle aussi, ça va lui changer sa vie.
Alors oui, parce qu'à la base, elle est tout ce qu'il y a de plus humaine, elle aussi, et elle va basculer accidentellement dans le monde de l'aurasphère. Et comme c'est une fillette à la base même, vraiment une fillette de 11 ans, et ce monde qui est l'aurasphère ne fonctionne pas du tout sous les mêmes règles que les nôtres, que celles qu'on connaît, donc que ce soit les lois de la physique, etc. J'en veux pour preuve une situation qui est totalement voulue et assumée. Deux auras qui font donc la taille d'un grain de riz, donc un petit centimètre, sont capables de déplacer une fillette. Donc voilà, il y a des démarches qui sont complètement différentes justement pour changer l'approche qu'on peut avoir de notre monde, sortir de ce qu'on connaît. Des distances qui nous paraîtraient impossibles à parcourir dans notre monde réel sont possibles dans ce monde-là, etc. Et donc cette fillette va basculer dans ce monde, dans ce monde qu'est l'aurasphère, et tout son corps va devoir subir une mutation génétique pour s'adapter à cet environnement. Et du coup, elle va prendre 6 ans en quelques jours. Et elle va se réveiller en fait à l'âge de 17 ans avec toute une transformation physique, physiologique et psychologique. Et au fur et à mesure de son parcours avec son ami, pour justement résoudre le conflit originel de l'aurasphère, elle va aussi s'apprendre à se découvrir en tant que jeune fille, du coup, et avec tout ce qui va au terme de ses sentiments et de ses émotions.
Oui, donc vous l'avez fait vieillir d'un coup, là. Hein.
C'est ça.
Et alors, est-ce que dans l'aurasphère, il y a des limites ou est-ce qu'on est éternel?
Alors, j'aborde pas spécialement la notion de longévité dans l'histoire.
D'accord.
Après, le peuple aura fonctionne le monde de l'aurasphère. Le peuple aura ne fonctionnant pas sur la même mode que nous. Tout peut laisser penser qu'effectivement, il peut vivre beaucoup plus longtemps avec des signaux de vieillesse tout à fait différents des nôtres. D'ailleurs, il y a un protagoniste qui est très très ancien et qui les aide dans la quête.
Ok, donc là c'est le deuxième tome hein, des l'aurasphère. Il y aura un troisième, non, peut-être pas.
C'est pas prévu dans l'immédiat. Disons que je ne sais pas, je peux pas dire. On va jamais dire.
Non.
Mais disons qu'il y a.
Non, mais surtout toujours ce thème un peu de extraordinaire quoi. C'est un peu.
Alors il y aura, oui, parce que je travaille. Pour expliquer, en gros, entre le moment où j'ai fini d'écrire un bouquin, bon, il sort et en moyenne 2 ans. Se produit, enfin qui passe. Là aujourd'hui, j'ai d'ores et déjà fini 4 autres romans qui sont prêts, qui sont soit en cours de correction, soit en cours de lecture, mais qui sont terminés en termes d'écriture. Donc déjà, il y a la matière au moins pour les 2, 3, 4 années à venir. Et je suis en train d'écrire un nouveau là actuellement, qui pour le coup est lui aussi totalement fantastique. Toujours pareil, parce que c'est une demande, etc. Donc oui, il y aura d'autres histoires 100% fantastiques ou fantaisistes, on peut l'appeler. Là, pour le coup, ce sera même plus féerique, parce que c'est des demandes qu'on me fait, ça me fait plaisir, parce que finalement, je m'amuse aussi à écrire ce style-là, même si c'est pas forcément mes habitudes initiales, du moins. Mais c'est toujours sympa.
Ça
permet d'explorer d'autres choses.
C'est bien hein, de pouvoir... Moi, je suis toujours un peu scotché, parce que quand je vois... beaucoup d'auteurs qui viennent dans font différents romans, mais Edouard qui toujours être inspiré pour écrire et pas se répéter surtout. C'est compliqué, non? Là, j'ai pas l'impression.
Non, mais non, parce que c'est assez difficilement explicable. J'aime à dire, en gros, que ce qui est compliqué, c'est le temps de gestation mentale. C'est le temps que ça se met dans la tête. Et après, une fois qu'on a l'histoire, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a les grandes lignes, et qu'on déclenche le traitement de texte, si ça veut venir, c'est presque, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est presque visionner un film. Je ne saurais pas dire, par exemple là, aujourd'hui, alors je sais pas quelle heure il est, mais je serais incapable de dire ce que je vais écrire dans une heure. Je
D'accord.
ne sais pas où va immédiatement, je sais à terme où va aller mon histoire,
D'accord.
mais je suis incapable de dire à une heure à l'avance qu'est-ce que je vais mettre dans le prochain passage. En revanche, je sais que quand je vais commencer le traitement de texte, si ça doit venir, ça va venir, et comme si je regardais le film, en fait, je le prévois pas, ça va se mettre dans ma tête et je vais écrire naturellement.
D'accord.
Et je ne force pas l'écriture. Si elle ne veut pas venir, elle ne vient pas.
Oui, parce qu'avoir déjà 4 livres d'avance, c'est pas courant quand même.
Ouais, disons que il y a eu les périodes de confinement qui ont aidé aussi.
Oui, ça aide aussi.
Ça a laissé du temps. Ouais. Et puis il y a une mécanique, une habitude de travail, parce que bon, bon, ça reste une forme de travail, même si j'aime pas trop le mot travail en général, mais
j'ai quand même du travail, hein.
Oui, mais disons que ça a un sens sympa. Si. Pour personnellement, ça a un sens un petit peu.
C'est une passion.
Oui, bien sûr, mais disons que j'ai la chance de vivre de mes deux passions. Donc
c'est bien, non ?
Voilà, exactement, c'est génial. Mais disons qu'il y a une habitude de fonctionnement qui fait que depuis le confinement, j'écris tous les jours. Alors, à durée plus ou moins longue, en général, j'écris au moins 1 heure à 2 heures tous les jours. Donc après, c'est une habitude qu'on prend, et en écrivant 2 heures par jour, des fois 3 ou parfois beaucoup plus, hein. Pendant le confinement, j'ai fait des 10, 12, 13 heures.
Ah, quand même.
Donc oui, après, on prend l'habitude, c'est comme faire n'importe quoi dans la vie, quand on prend l'habitude d'y aller, faire courir tous les matins ou choses comme ça, ben, voilà, c'est une routine qui se met en place. Et, donc forcément, ça crée de la matière.
Alors, pour parler un peu, parce que souvent, il y a un éditeur, là, il n'y en a pas forcément, mais il y a quand même... une relation avec Hachette. Alors, si on peut expliquer un petit peu comment ça se passe.
Alors oui, effectivement. Donc là, la maison d'édition, en l'occurrence, c'est une édition libre qui s'appelle Bookelis, qui permet de faire paraître ses ouvrages, donc de les mettre en place et de les donner sur, de les rendre disponibles sur leur page internet, sur leur site internet. Et à côté de ça, on a la possibilité de souscrire ce qu'on appelle un pack de distribution, ce qui permet au roman, du coup, via Hachette, d'être disponible partout en France, ce qui est le cas pour moi, ce qui fait que ça permet d'avoir un ISBN et que le livre soit disponible partout. C'est-à-dire que n'importe qui voudrait, je sais pas moi, en Bretagne, dans le sud ou autre, qui serait intéressé, peut aller voir son libraire, donner soit le nom du soit mon nom, soit le nom de l'ouvrage, soit le numéro ISBN du livre, et le libraire peut se le fournir directement. Donc il n'y a pas de frein de ce côté-là.
D'accord.
Et ça le permet également qu'il soit référencé sur tous les sites internet de vente, donc la Fnac, des sites Chapitre, Amazon.
D'accord. Oui. Les premiers romans ont bien marché.
Oui, dans l'ensemble, enfin, moi je me satisfais parce que c'est ça reste pas mon activité principale, donc forcément j'ai pas le stress de devoir en vivre, ce qui déjà est un bon point en moins. Après, bien sûr que j'ai de l'envie et de l'ambition, mais ça reste personnel. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Après, je connais pas trop les autres, j'avoue, honnêtement. Mais de ce que j'en sais, de ce qu'on m'en dit, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est-à-dire que là, le 28 mai dernier, donc samedi dernier, j'étais en dédicace à Alpha Bureau PG10 à Monistrol. Et il est resté 3 exemplaires de tout ce qui avait été mis à disposition. Et apparemment, c'est rare qu'il en parte autant en une journée. Donc, en tout cas, de ce qu'on m'en dit, oui, ça tombe plutôt... bien, de manière très modeste, hein, mais ça tombe.
Non, mais c'est bien. Bah, quand on vend, c'est toujours bien. On est content, hein, quand même.
Exactement.
Que c'est que ça intéresse des gens.
Disons que c'est la prolongation de l'écriture. C'est-à-dire qu'écrire, une fois que le livre est terminé, soit il meurt, soit il revit à travers l'esprit des gens. Mais si personne ne le lit, ben, oui, c'est un plaisir personnel, mais ça reste un livre qui prendra la poussière. Donc c'est un peu dommage. Quoi.
Et vous faites un peu des salons du livre ?
Alors, je serai le 2 octobre au salon du livre d'Issingeaux, effectivement.
D'accord.
De octobre prochain.
Ouais, d'accord. Donc, jamais encore à Livre Évasion.
Pas encore. Arsac. J'ai essayé de contacter. J'ai pas forcément toujours eu des retours ou ça tombait pas forcément sur des bonnes dates.
Enfin, il y a pendant 2 ans, là, ça a été. Il y en a pas eu.
Mis en pause, du coup.
En plus, cette année, il y a eu de la neige. Donc,
en plus.
C'est mal tombé.
Ouais. Bah, disons que si, quand je peux, je le fais. Après, c'est avec mon calendrier professionnel, c'est aussi compliqué de toujours bien
assimiler.
Mais parce que je travaille le week-end.
Ouais.
Donc, après, c'est une question de bien agencer. Mais si j'essaye, dans la mesure du possible.
Donc voilà, aujourd'hui, notre invité est Loïc Perrin. Loïc avec un K, hein, je répète, parce qu'ici, dans la région, quand on parle de Loïc Perrin, bon, vous avez compris, surtout en ce moment. Donc, il y a 2 Horasphères. Il y a eu un tome 1 avec Jean, et puis le tome 2 avec Oménis, cette jeune fille qui a vieilli de 7 ans d'un coup. Hein. Et alors, c'est un monde fantastique, un peu, hein, mais c'est bien de... Je pense qu'au travers de ces deux livres, vous faites rêver un peu les gens, quand même.
C'est l'idée, c'est créer de l'évasion.
Voilà.
Dans la période qui était au monde de l'écriture.
Enfin, dans un monde un peu compliqué.
Ouais,
le monde réel est compliqué. Donc,
c'est ça, exactement. C'était l'idée, parce que c'était en pleine période de confinement. Donc, c'est l'idée de créer quelque chose qui apporte une bulle d'oxygène. Il y a un peu de rêve.
Mais écoutez, Loïc, on a fait à peu près le tour. Hein. Je crois que on peut retrouver vos livres. Vous l'avez dit, hein. Vous êtes sur Internet. Il y en a dans les librairies. Je pense que bientôt, il y en aura au plaisir des mots à Craponne. Hein. Ça serait bien que maintenant qu'on vous a écouté, d'aller découvrir. C'est un peu nouveau, hein, parce que c'est vrai que dans tous les gens qu'on reçoit, il y en a quelques-uns qui écrivent un peu des histoires, mais comme vous, il n'y en a pas souvent. Hein. Donc, en plus, vous êtes très jeune, je pense. Hein.
31 ans.
Ah ouais, c'est ça, je vois, très jeune. Donc.
Et on parlait des moyens de découvrir l'histoire. C'est aussi des moyens de communication qui sont actuels, donc il y a tous les réseaux, ceux qui sont intéressés. Et j'ai aussi une petite chaîne YouTube, pareil, très modeste, où je fais des vidéos de présentation. Des romans,
voilà. D'accord.
Donc, si les personnes veulent...
Allez voir.
Allez voir, donc c'est LP, donc pour mes deux initiales, L majuscule P majuscule et romance, comme une romance, voilà, tout simplement.
D'accord. Sur YouTube. Bien, eh ben, Loïc, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
On va se quitter avec Goldman, hein, puisqu'il chante « Au bout de mes rêves ». Vous n'êtes pas encore au bout de vos rêves, vous peut-être, mais
non,
pas loin
pas. Non,
non.
Il y a du chemin.
Il y a du chemin encore.
Oui.
Ah, vous êtes tout jeune, il y a encore du chemin. Alors donc, et beaucoup de livres à venir, hein, c'est ce qu'on a compris.
Ouais.
Ben, on vous retrouvera, bien sûr, dès qu'ils seront... sorti. Merci d'avoir nous
merci.
Et de nous avoir découvert. Merci.
Merci bien.
Gigi Goldman, au bout de mes rêves. Alors oui, juste pour donner quelques dédicaces supplémentaires, hein. Le lundi, alors on a parlé du 28, ah mais non, ça s'est passé, c'était à Monistrol.
C'est ça.
Donc lundi 25 juillet.
Oui, au camping de la Fressange à Saint-Didier.
Donc, et le 15 août également.
Exactement, donc sur ce qui s'appelle les marchés nocturnes.
Ouais.
Donc je serai à partir de 18h jusqu'à 21h ou un peu plus.
D'accord, donc voilà, à retrouver, ça c'est les plus récents, puis il y aura le mois d'octobre, on
exactement,
a dit.
Exactement,
hein,
le 2 octobre, le Salon du Livre et Saint-Jean.
D'accord, voilà, ben, merci Loïc d'avoir
merci.
Été avec nous, et puis on se quitte, donc à cet invité du jeudi. Je vous rappelle que cette émission, bien sûr, est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30.
I like it like that.